Donc, le dernier, on arrive à la fin du chapitre Romains, Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Tout ce qui nous dépasse ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pour varier un petit peu l'introduction, pas toujours introduire ce passage de la même manière, je voudrais parler un peu de métaphysique ce matin. Chaque être humain a une vision du monde. Et qu'est-ce que c'est la vision du monde que l'on a? C'est une réponse plus ou moins précise aux questions existentielles. D'où est-ce que je viens? Poser la question des origines. C'est incontournable. Et comment je dois vivre? Comment chaque fois que je me lève le matin, comment je dois faire avec ma vie? La question de la morale. Et la troisième grande question, où est-ce que je vais? Quel est le sens de ma vie? Quelle est ma destinée? Donc les origines, la morale, la destinée, trois points sur lesquels tous les hommes ont construit une vision du monde, avec des réponses ou pas. Bien souvent, les réponses sont très très faibles. Si vous discutez avec des gens sur ces sujets-là, vous êtes sûr d'avoir des conversations où vous allez pouvoir en finir par introduire votre foi. Mais les personnes ne sont pas habituées à cela et pourtant, on doit avoir des réponses. Chaque homme doit avoir des réponses. Et chacun en a plus ou moins. Dans l'Épître aux Romains, Paul s'est attaché à présenter la vision chrétienne du monde. La vision révélée dans la Bible et révélée par la prophétie. Alors je vais la résumer de façon très brève. Vous trouverez peut-être que c'est de façon bien imparfaite, certainement. Mais voilà plus ou moins les sujets que Paul a abordés. Tous les hommes ont un ancêtre commun, Adam, le premier homme, créé par Dieu à son image et placé à la tête de la création terrestre. Et Adam, un jour, a désobéi à Dieu, il a péché, il est entré dans le monde, est entré dans le monde à ce moment-là, la mort, la séparation d'avec Dieu. Et Adam a communiqué à tous ses enfants après lui, sa nature encline au péché. Tous pêchent, tous meurent. Ça, c'est d'où je viens. Les hommes sont des êtres moraux qui ont une notion du bien et du mal et de la nécessité d'un jugement. Ils partagent tous un sentiment de peur, de honte ou de culpabilité, l'un ou l'autre plus ou moins prononcé. Et tous, au fond d'eux-mêmes, se sentent coupables devant Dieu. Ils sont déchirés entre le désir de faire le bien et leur incapacité à y parvenir vraiment. Et même pire, voulant le bien, ils font malgré eux le mal. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour expier par sa mort le péché des hommes, prendre leur culpabilité, donner sa justice, son innocence. Tous ceux qui croient dans le sacrifice du Fils de Dieu et sa résurrection reçoivent gracieusement le pardon, la paix, la réconciliation, la joie, d'une communion retrouvée avec leur Créateur. Tous reçoivent à travers le don du Saint-Esprit une nouvelle nature d'enfants de Dieu qui les libère aujourd'hui de l'esclavage du péché et leur donne en quelque sorte un sauf-conduit par rapport à la loi de Dieu. Ça, c'est la question de la morale. Comment je dois vivre chaque jour? Et la destinée? Tous ces chrétiens recevront demain un nouveau corps semblable à celui de Jésus et ce sera la fin de leur souffrance. La pleine entrée dans la présence de leur Seigneur Jésus-Christ, la pleine connaissance de Dieu, le voir tel qu'il est, le voir tel qu'il est. Ça, c'est là, la destinée dont l'apôtre Paul nous a parlé. Et dans les ces derniers versets, donc, de chapitre 8, Paul veut donner de l'assurance aux croyants par rapport à ces choses-là, par rapport à cette destinée, par rapport à cette vision chrétienne du monde. Et donc, on a vu que le salut du croyant est assuré parce que c'est de toute éternité le plan de Dieu. C'est ce que Dieu a prévu depuis le départ. Dieu a calculé par avance et utilise tout moyen à sa disposition pour que son plan se déroule comme prévu. Au verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Le salut du croyant est assuré malgré ce qu'il est un pécheur. Les chrétiens ici-bas restent des pécheurs. Mais le salut du croyant est assuré malgré cela. Dans les versets suivants. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. À cause du sacrifice de Jésus-Christ, de sa résurrection, de son intercession, il n'y a plus d'accusation ni de condamnation qui tienne. Le salut du croyant est assuré malgré ce qu'il est, un pécheur. Le salut du croyant est assuré malgré l'opposition des incroyants. On avait vu ça la dernière fois. Et même s'il doit mourir en martyr, le chrétien ressort triomphant. Le chrétien triomphe. Les versets 35 et 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et les deux derniers versets pour aujourd'hui, j'ai résumé ainsi. Le salut du croyant est assuré malgré tout ce qui le dépasse. Malgré tout ce qui le dépasse. On va développer ça dans quelques instants. J'aurais aimé faire une synthèse de cette déclaration de Paul que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ et réfléchir et méditer en quoi consiste cet amour. On ne pourra pas le faire dans le temps imparti aujourd'hui, on laissera ça pour une prochaine fois comme une conclusion à ces 8 chapitres de l'Épître aux Romains. Mais pour aujourd'hui donc, le salut assuré malgré ce qui nous dépasse. Car j'ai l'assurance, écrit Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors la mort, c'est notre grand ennemi devant lequel nous sommes tous impuissants. Hier, avec Jackie, nous avons appris une triste nouvelle. Un cousin un petit cousin, enfin jeune cousin, qui a perdu son bébé. Il avait un bébé de 2 mois et pendant la nuit, il est mort. Le matin, le papa et la maman ont retrouvé le corps sans vie. Et quelle épreuve, quelle douleur que la séparation d'avec ce qu'on aime, ce qu'on a chéri, ce qu'on a choyé, vers lequel on s'est projeté dans l'avenir, avec lequel on s'est projeté dans l'avenir. La mort est plus forte que nous. La seule réponse que l'on a, c'est nos larmes face à elle. Elle nous sépare de ce que l'on aime, mais elle ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La mort ne le peut pas. La vie non plus, nous dit Paul. Peut-être vous êtes comme moi, les circonstances de la vie nous ont séparés de bien des personnes qu'on a perdues de vue, des amis de lesquels on était si proches, des membres de la famille dont on n'a pas de nouvelles. Peut-être ça peut être des collègues de travail ou on croise beaucoup de personnes et puis on les perd de vue. Parfois, la vie sépare ceux qui s'aiment, mais toutes les circonstances par lesquelles nous devions traverser ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les anges, ni les dominations ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. La Bible nous apprend que Dieu a créé des êtres qui ne font pas partie de la création terrestre, qui ne répondent pas aux lois de la physique qu'on apprend dans nos écoles. Mais la parole de Dieu, la Bible, reste très, très discrète à leur sujet. On ne sait que très peu de choses. Et ce n'est pas le cas pour toutes les religions, loin de là, au contraire. Et sur la terre aujourd'hui, beaucoup de personnes les redoutent. On les appelle les démons, on les appelle les djinns, on appelle le mauvais œil, les gris-gris, les porte-malheurs, les esprits des morts, les fantômes, les sorciers. Mais les chrétiens ont bien raison de dormir tranquille sur leurs deux oreilles, comme on a lu dans le psaume tout à l'heure. Je me couche, je m'endors, je me réveille en prière parce que tu es ma sécurité dans toute ma demeure, a écrit David. Et nous avons ce grand privilège de savoir que tous ces dominations, toutes ces choses ont été vaincues à la croix par le Fils de Dieu. Les anges, les dominations ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les choses présentes, ni les choses à venir ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Vous avez peut-être utilisé cette expression ou l'entendu, c'est comme ça, on n'y peut rien changer. Et on utilise cette expression chaque fois que l'on exprime notre impuissance et le fait qu'il faut accepter la situation telle qu'elle est. Le coronavirus est là, il faut apprendre à vivre avec. Les impôts, on sait que de toute façon, il faudra les payer. J'ai mes voisins qui m'empoisonnent la vie, ils m'usent, mais je n'y peux rien. Les choses présentes, cependant, ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu, quelles que soient les circonstances présentes dans lesquelles nous devions vivre. Avons-nous peur de l'avenir ? On nous parle beaucoup maintenant de l'intelligence artificielle. Ces ordinateurs, ces robots, ces machines qui vont pouvoir se mettre à penser à notre place et qui vont le faire mieux que nous. Ça fait peur. Et puis le réchauffement climatique, toutes les catastrophes qu'on nous annonce. Que va-t-il se passer? Les mouvements des migrations, les guerres, ou peut-être ce peut être des peurs plus proches et plus personnelles. Beaucoup d'enfants peuvent avoir peur du divorce de papa et maman, les voyant se disputer. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être avez-vous le sentiment d'être dépassé par tellement de choses. Mais ce que l'on subit aujourd'hui ou demain ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les puissances ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Alors le mot puissance est aussi traduit et très souvent par le mot miracle, suivant la façon dont il est utilisé. Et on peut voir là, je vous propose de voir là tout ce qui est extraordinaire, toutes les manifestations paranormales, tout ce qui sort, qui défie les lois normales de la physique. Tout ce qui fait peur aux enfants, et pas que. On sait qu'il y a des médiums, on sait que certaines pratiquent l'hypnose, on veut même faire des guérisons par l'hypnose aujourd'hui, soulager les gens avec l'aide de ça. Et puis on parle des apparitions de la Vierge, des ovnis, des personnes qui font de la lévitation, des sorciers, des sourciers, des magnétiseurs, et puis il y en a plein, plein, plein. Notre civilisation qui se veut si rationnelle est en fait envahie par toutes sortes de choses qu'on trouve très facilement l'accès à l'information de ce côté-là, et c'est très facile d'être inondé par toutes ces choses. On peut rappeler que tous les miracles ne viennent pas de Dieu, c'est important de le faire, pour ne pas être ébranlé devant ces manifestations. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. On va prendre le temps de lire deux passages sur ce sujet pour ne pas être ébranlé. Le Seigneur, dès le commencement, dès les premières pages de l'évangile de Matthieu, nous parle de ça. Chapitre 7, passage qu'on connaît bien, 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. 7, 22. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Beaucoup de puissance par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dieu va garder ses enfants. C'est ce qu'enseigne l'apôtre Pierre aux Thessaloniciens qui était... il n'y avait pas le Nouveau Testament à ce moment-là de rédiger... Il n'y avait pas les épîtres de Paul à notre portée. Et voilà ce que l'apôtre écrit aux Thessaloniciens. C'est la deuxième lettre aux Thessaloniciens dans cette toute jeune église qui attendait le retour du Seigneur. Je vais lire chapitre 2, versets 9 à 12. Et donc... on est dans ce contexte de ces Thessaloniciens qui attendent le retour du Seigneur et ils pensent que, voilà, ils ont, comme on dit, manqué le coche. Le Seigneur est venu, il les a laissés. Et donc, il prévient qu'avant, il va se passer des choses. Verset 8. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour que ceux qui périssent pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, nous sommes en garde par rapport à tout cela. Et ces puissances ne peuvent cependant nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la hauteur, ni la profondeur ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, de quelle hauteur et profondeur s'agit-il? Alors, c'est ouvert, hein, c'est très vaste, et vous pouvez, là, suivant les circonstances de votre vie, mettre des précisions. Certaines traductions portent les êtres d'en haut, ceux d'en bas, les forces d'en haut ou d'en bas, paroles de vie, par exemple. Je vous proposerai ce qui nous est inaccessible, la distance qui nous sépare des cieux. Isaïe avait la vision du trône de Dieu comme étant très élevé, très élevé. Et David écrit ceci dans le psaume 61, verset 3. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi vers le rocher que je ne peux pas atteindre. Conduis-moi vers le rocher que je ne peux pas atteindre. Il est trop haut pour moi. Psaume 61, 3. Ou comprendre ce qui est insondable par la profondeur. On peut être dans une terrible épreuve, comme le psalmiste. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô éternel Seigneur. Écoute ma voix. Que tes prières soient attentives à la voix de mes supplications. Ainsi David commence le psaume 130, du fond de l'abîme. Ou bien, dans un autre registre, psaume 64, 7 rapporte à propos des méchants le texte suivant. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, à propos des méchants donc, la pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Et certains se livrent à l'introspection, ils veulent se sonder. Un abîme, un puits sans fond, nous dit l'Écriture. Et c'est pas un chemin vers lequel il faut s'aventurer, parce qu'on s'y égarerait. Romains 21, ils se sont égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et l'intelligence, selon la Bible, c'est pas la résolution des équations de mathématiques, mais être intelligent, selon Dieu, c'est s'éloigner du mal. C'est s'éloigner du mal. Ce qui est trop élevé, trop profond, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Dans la suite de l'épître aux Romains, on connaît ce passage où Paul parle de cela. Romains chapitre 10, verset 6. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel. Ça leur revient à faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme? C'est de faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit donc la parole? Que dit donc la Bible? La parole est près de toi, dans la bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le nom du Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ni la hauteur, ni la profondeur ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et l'apôtre termine ainsi, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Y a-t-il encore quelque chose, quelqu'un qui peut nous barrer la route qui nous sépare de Dieu, se mettre en travers du chemin, nous empêcher? Dieu est le créateur de toutes choses et bien sûr, le créateur n'a pas d'obstacle à ce qu'il a prévu pour ses enfants d'adoption. On est peut-être habitué à la pensée de, vous savez, comme Frankenstein dans cette histoire, dans ce roman, où un homme met en œuvre un monstre qui n'arrive plus à maîtriser du tout, et c'est ça les hommes un petit peu. Mais pour ce qui est de Dieu, c'est pas du tout le cas. Au contraire, Paul nous a enseigné que toutes les choses travaillent, collaborent ensemble pour le bien de ses enfants, pour ceux qui sont appelés selon le dessein qu'il a formé de toute éternité. Aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien, absolument rien. Alors, je vous propose deux applications différentes. La première, je dirais, Dieu nous protège, alors protégeons-nous. Dieu nous protège, alors protégeons-nous. On est dans les temps que nous vivons, on subit un bombardement d'informations contradictoires. Et c'est unique dans l'histoire de la société, les temps que nous vivons. C'est remarquable par la vitesse. Le monde change à tout très rapidement et plus les années passent, plus on a cette accélération qui n'existait pas avant. Et nos personnes âgées, et même peut-être moi déjà, souvent sur des questions, je me sens dépassé. Je me sens dépassé. Les choses vont trop vite. Ce que j'ai appris dans le passé ne me sert plus pour arriver à comprendre le présent. La vitesse. Et puis c'est un côté mondial, global. C'est pas seulement un pays, une région, un village. C'est le monde entier. Ça se passe au niveau planétaire. Et c'est d'une très forte intensité. Il y a maintenant, avant il y avait les héros qui passaient de village en village, peut-être une fois par mois. Et puis après il y a eu le journal qui diffusait les nouvelles. Et puis ça allait déjà beaucoup plus vite. Puis il y a eu la radio, puis la télévision. Et maintenant, on en est à la 5G, à la fibre. Tout est rapide. Les informations augmentent en intensité et en densité et en portée également. Les valeurs éthiques sont remises à plat. Et c'est au niveau mondial que ça se passe. On constate ça, on voit ça. Et un bombardement d'informations qui peuvent nous faire perdre le nord, où on peut se sentir complètement dépassé. Et le Seigneur nous a mis en garde. Les temps de la fin seront compliqués. C'est l'expression qu'on entend beaucoup. Voilà, c'est compliqué. Ça veut dire c'est très difficile. Ça veut dire des fois c'est dramatique. On vit des temps compliqués. Et le Seigneur nous a mis en garde contre cela. Si le Seigneur a prévu de nous que rien ne pourrait nous séparer de lui et de nous protéger, de nous garder, il serait fou de ne pas collaborer dans ce sens avec lui. Pendant la guerre, il y avait des pluies de bombes qui tombaient comme ça sur les villes. Tout était détruit, mais les civils devaient aller dans les refuges, elle trouvait refuge dans les caves, et là elle se mettait à l'abri des bombardements qui avaient lieu en surface. Alors nous aussi, je pense qu'il nous faut nous abriter, avoir de la sagesse et nous abriter par toutes ces informations contradictoires qui peuvent arriver de toutes parts et nous dépasser. La recette est toujours la même, hein. Une lecture régulière de la parole de Dieu, tous les jours. Prendre du temps, lire sa Bible, tous les jours. La prière, tous les jours. Avoir ce moment de communication avec Dieu. Avoir un moment d'intercession pour les autres. Pas seulement être tourné vers ses problèmes ou les problèmes qu'on a immédiatement autour, mais être également intercesseur pour les autres, comme le Seigneur le fait. Fréquenter l'église, bah, ça semble évident, et pourtant, c'est tellement important. Et occuper notre corps par le service du Seigneur, que nos membres soient occupés par le service. Là où nous sommes, dans la situation et dans les journées qu'on passe, on peut faire notre travail pour le Seigneur, on peut faire nos tâches à la maison pour le Seigneur, on peut tout faire dans nos vies pour lui. De vieilles recettes, vous direz, est-ce que c'est bien adapté à la situation que nous vivons? Si c'était valable hier, c'est forcément valable aujourd'hui, si c'était nécessaire hier, la situation se compliquant, c'est d'autant plus nécessaire aujourd'hui. On est au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, et il y en a 8 autres qui suivent. Encore, l'apôtre Paul n'a pas terminé avec cette puissante déclaration, rien ne vous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il parle encore pendant 8 chapitres de choses très concrètes qu'il encourage ses frères et sœurs à mettre en pratique. Donc, Dieu nous protège, alors protégeons-nous. Réjouissons-nous de la faveur divine. On a commencé le culte avec le thème de la joie. Hein. J'ai plus de joie dans mon cœur que ce qu'il en est avec leur mou et leur toute leur richesse et toutes les choses qu'ils peuvent avoir et je sais pas tout ce qu'on peut regarder comme beau dans notre monde ou comme des signes extérieurs de richesse comme on dit. Réjouissons-nous de la faveur divine malgré les complications présentes, soyons heureux de ce que Dieu a préparé pour nous. Louons-le joyeusement pour son amour. Restons des fans inconditionnels du Seigneur Jésus. Soyons de fervents abonnés, des followers, des accros de Jésus seul. Et pour lui ressembler, c'est vraiment lui qu'il faut ressembler. C'est vraiment lui qui est admirable, qu'on peut admirer, dont on peut jamais se lasser des perfections et qui ne nous décevra jamais et qui ne nous conduira jamais dans une impasse. C'est lui vraiment qu'il faut suivre. Alors, je voudrais vous laisser sur cet encouragement de nous mettre dans la joie, de nous réjouir. Et on va chanter dans un moment le chant 434. Je vais laisser à Jean le temps de regarder tranquillement les notes, de se préparer. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. On va le chanter tout joyeusement ensemble. Pendant que Jean se prépare, je vais saisir pour parler des annonces. On chantera le chant et on priera.